Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Les jours sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Demain, j'ai froid, j'ai pas de pull.
Mais oui, vous avez un pull.
J'ai juste une petite veste. Mais non, j'ai oublié de mettre mon pull.
Vous avez un pull, il est là.
Oui, mais il n'est pas très chaud.
Mais oui, c'est...
D'habitude, je mets un autre pull à manches longues. Mais c'est pas grave.
Il est là. Il
ne peut pas changer à ceci.
Il est pas.
Et j'aurais eu plus chaud si j'avais mis un autre pull.
Bon, nous arrivons à la conclusion de ce travail énorme de Saint Pidis, donc Pascendi, Dominici Gregis, septembre 1907. Je ne peux que répéter les conseils que j'ai déjà donnés. C'est un encyclique et certainement une des plus importantes du magistère de l'Église des derniers siècles. C'est une encyclique à étudier, donc je conseille beaucoup à tous ceux qui veulent travailler, comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il faut absolument qu'ils étudient cette encyclique. Bon, il y a les cours, bien sûr, qui sont là pour vous aider, mais je conseille beaucoup à tous ceux qui ont le temps de relire maintenant l'encyclique par eux-mêmes pour bien en saisir, si vous voulez, la moelle intérieure, pour vraiment comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, Saint Pédis a expliqué les racines philosophiques du modernisme. N'oubliez pas que, surtout aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, mais il faut répéter les choses, toutes les idées de Vatican II, tout est déjà condamné par avance par Saint Pédis en 1907. Bon. Saint Pédis, il est mort en août 14. Bon. Donc, toutes les bêtises actuelles de Bergoglio, toutes les avanies qui sortent, les hérésies, l'apostasie publique des gens de Rome qui maintenant ne cherchent même plus à cacher leur apostasie, tout est condamné par avance de Saint Pédis. Relisez Saint Pédis, vous avez tout. Bon. Et Saint Pédis s'explique, je suis déjà allé dans ces sujets, sur ces sujets-là, donc je réexplique rapidement parce que je fais toujours comme ça, j'utilise le premier quart d'heure souvent du cours pour revenir un peu en arrière, être sûr que vous accrochez bien le wagon au train, à la locomotive. Donc, Saint Pédis explique que c'est un problème intellectuel. C'est l'esprit qui est malade, l'intelligence qui est malade, qui n'est plus capable d'atteindre le vrai. Alors que le but de l'intelligence, l'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Bon. Donc, l'intelligence n'est plus capable d'atteindre le vrai. Pourquoi? Parce que les rouages qui permettent à l'intelligence de travailler normalement ne fonctionnent plus. On appelle ces rouages. Comment s'appellent ces rouages? J'ai expliqué au moins 50 fois. Les rouages de l'intelligence qu'on appelle les premiers principes. Dont surtout le principe de causalité. Donc, on va revenir là-dessus tout de suite. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est une maladie de l'intelligence et Saint Pédis explique. C'est ce qu'on appelle le subjectivisme. Chacun soumet la vérité à son sujet personnel. C'est moi qui décide ce qui est vrai. C'est moi qui décide ce qui est bon pour moi. C'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. C'est moi qui décide si je dois devenir Dieu ou non. Tout vient de moi. Bon. Et Saint Pédis explique, c'est pratiquement indéracinable. Pourquoi? Parce que c'est à la fois un agnosticisme, un subjectivisme et un évolutionnisme. Tout change, La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain n'est pas celle d'après-demain. Évolutionnisme. Tout vient de l'intérieur. C'est moi qui fabrique toute ma propre vérité. Immanentisme. Agnosticisme. De toute façon, on n'est sûr de rien, puisqu'on peut être certain d'aucune vérité, puisque la vérité n'existe pas, chacun ayant la sienne. Agnosticisme. Bon. Donc, à la fin de cette encyclique, Saint Pie X va maintenant faire une chose qui est très importante. Il va essayer de remonter aux causes. Il a expliqué les effets. Bon. L'agnosticisme, l'évolutionnisme, l'immanentisme, ce sont des effets, en quelque sorte, du modernisme, de cette maladie de l'intelligence. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut passer au degré au-dessus. Pourquoi c'est comme ça? Bon. Pourquoi? D'où vient cette maladie? C'est bien de dire, monsieur, vous êtes atteint d'une maladie grave. Ça ne suffit pas de dire ça. D'où vient cette maladie? Pourquoi vous avez eu cette maladie grave? Pourquoi il y a un virus qui est rentré dans votre organisme? Comment il est rentré dans votre organisme et qu'il a fait un dégât considérable dans votre organisme? D'accord? C'est pareil dans la vie spirituelle. Donc, Saint Pie a expliqué ce qu'est le modernisme. Maintenant, il va remonter aux causes. D'où ça vient? Et là, on touche à quelque chose de très important, ce qu'on appelle l'étiologie. L'étiologie, c'est l'étude des causes. Le monde moderne a horreur de ça. A horreur d'aller aux causes.
Qui est-ce qui a horreur?
Le monde moderne. Il ne va jamais aller aux causes. Bon. Il ne va jamais aller aux causes, parce que s'ils vont aux causes, ça va les obliger à changer quelque chose. On va prendre des exemples très pratiques dont j'ai déjà parlé, mais je reviens sur ces exemples parce qu'ils sont, à mon avis, très importants. Prenez l'exemple du cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Un cancer dans l'organisme, c'est un amas de cellules qui, pour une raison qu'on ignore, d'un seul coup va se mettre à se multiplier de façon complètement anarchique. Bon, par exemple, un petit groupe de quelques cellules, quelques neurones par exemple dans le cerveau, qui vont se mettre à se développer de façon anarchique, et ça va former d'abord un petit grain de sable. Puis très vite, au bout de quelques jours, ça va devenir la taille d'un petit pois, puis la taille d'une noix, puis la taille d'une orange, et puis on meurt. D'accord? Donc, le rôle du médecin ne consiste pas simplement à dire, monsieur, vous avez des gros problèmes de céphalée terribles, des douleurs dans votre boîte crânienne terribles. Eh bien, on va faire un examen pour essayer de voir d'où ça vient, d'où viennent ces douleurs. Et on constate, effectivement, monsieur, je suis désolé, mais vous avez un cancer au cerveau. Vous avez un cancer du foie, vous avez un cancer du poumon. Donc il y a une grosseur dans votre poumon, dans votre foie, dans votre cerveau qui se développe de façon anarchique. Voilà monsieur, voilà maintenant vous savez ce que vous avez. Ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut faire après? Pour soigner, il ne s'agit pas de dire simplement à la personne, bon, on va vous faire des rayons pour tuer cette grosseur qui se développe de façon anarchique dans votre cervelle, dans votre foie, dans votre poumon, dans votre cœur. On va faire des rayons, on va tuer ça. Qu'est-ce que vous avez posé comme question au médecin? Si vous avez un peu de bon sens. Mais monsieur, d'où ça vient ça? Pourquoi ces cellules ont-elles commencé à se développer de façon anarchique? Ah ça, on ne sait pas, on va faire des rayons. Et ça sert à quoi de faire des rayons si on n'étudie pas la cause? Si la cause est toujours là, dans le corps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va recommencer, pardi. Ça va continuer, il n'y a rien qui va changer. Alors vous allez me dire, mais monsieur Lebé, comment se fait-il que dans le monde de la médecine, ils ne recherchent pas trop les causes? Ils parlent beaucoup des effets du cancer. Il y a des centres de chimiothérapie, de radiothérapie, des cliniques anticancéreuses dans le monde entier. Les médecins font surtout les sociétés pharmaceutiques font des milliards d'euros avec ces cancers qu'on soigne de cette façon. Parce qu'on ne soigne pas le cancer, on soigne les conséquences du cancer. On soigne la grosseur qui se développe de façon anarchique. Mais ça va recommencer. Donc on vous soigne, monsieur, vous nous devez 350 euros ou 500 euros pour les rayons, le rayonnement qu'on vous a fait à partir d'une source des rayons, des rayons X par exemple. On a, avec une chimiothérapie adaptée, on a brûlé cette grosseur. Monsieur, vous nous devez 500 euros. Et puis on vous voit bientôt. Un mois plus tard, ça recommence, évidemment. Alors, il faut revenir. Et il faut repayer 500 euros et on repart dans la chimiothérapie. Bon, et on fait durer les choses le plus longtemps possible. Pourquoi est-ce que les grandes compagnies pharmaceutiques font durer ces choses le plus longtemps possible? Parce que ça leur fait rentrer de l'argent de façon considérable. Tant que ça pousse, il faut retourner faire des rayons pour tuer la grosseur. On va jamais se poser la question d'où ça vient. Vous comprenez ce que je vous dis là? Non. C'est absolument fondamental. Il faut avoir le courage de se poser la question d'où ça vient. Pourquoi les grandes compagnies pharmaceutiques ne veulent pas se poser la question d'où ça vient? Parce que s'ils trouvaient d'où ça venait, qu'est-ce qui se passerait? Ils pourraient aller attaquer la cause, et supprimant la cause, ils vont supprimer les conséquences. Si on arrive à trouver la cause du cancer, on supprime la cause, il n'y a plus de conséquences, on ne verra plus de grosseur qui va se développer de façon allergique dans le cerveau, dans le foie ou dans les poumons. Et donc s'il n'y a plus de cancer qui apparaît, les compagnies pharmaceutiques, les grandes cliniques anticancéreuses vont arrêter de se faire de l'argent puisqu'on a supprimé les causes. Donc on garde les causes, on ne cherche pas à étudier les causes. Eh bien, ça c'est très très important, savoir remonter aux causes, c'est ce qu'on appelle le premier principe de causalité. Rappelez-vous, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faut savoir remonter aux causes. Et le problème, c'est que dans le monde moderne, il ne va jamais, jamais remonter aux causes. Prenons un autre exemple, d'exemple que j'ai sans doute déjà donné en cours, mais je le redonne parce que j'ai remarqué qu'il faut constamment répéter les mêmes choses. En matière de cours de ce genre, la répétition, c'est le secret. Il n'y a pas de possibilité que les gens comprennent ces choses-là sans répéter sous différentes formes pour être sûr qu'ils comprennent. Bon. Prenez par exemple, je vais donner un autre exemple, vous allez comprendre des exemples et après on appliquera Saint-Pédis. Prenez les chefs d'État dans le monde entier qui se rendent compte qu'il y a un énorme problème actuellement, que les sociétés modernes vont droit dans le mur. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus d'enfants. Les gens ne voulant plus d'enfants, il faut, je crois, un chiffre de 2,1 enfants par femme pour que le niveau d'une population se maintienne. Bon, on est à un peu plus d'un, voire même en dessous d'un dans certains pays comme la Corée du Sud ou le Japon. Les gens ne veulent plus d'enfants. Donc comme il n'y a plus d'enfants, la population vieillit de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de personnes jeunes pour payer les retraites des personnes âgées. On va droit dans le mur. D'accord? Vous comprenez? Bon. Donc, un certain nombre de gouvernements vont essayer de faire des tas de choses pour pousser les gens à avoir des enfants. Ils proposent des maisons gratuites ou des réductions sur les coûts des maisons, ils vont proposer des aides pour que les mamans puissent accoucher, des aides pour éduquer les enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils obtiennent comme résultat? Presque rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas aux causes. Quelle est la cause? La cause de ce manque d'enfants dans le monde moderne, dans la société contemporaine, la cause, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. D'une part, l'égoïsme des parents, géniteurs, et c'est aussi, ça c'est très important aussi à comprendre, la destruction de la famille. Égoïsme plus destruction de la famille égale plus d'enfants. Bon. Donc, en fait, il y a l'égoïsme plus la destruction des familles parce qu'on a mis quelqu'un dehors de la société. C'est quelqu'un qu'on a mis dehors de la société, c'est qui? Qui a été mis dehors, ce qui a engendré un égoïsme terrible et une destruction de la famille? C'est Dieu. On a mis dehors le bon Dieu. Mettant dehors le bon Dieu, tout s'écroule. C'est logique. Vous voulez plus du bon Dieu? Eh bien, vous allez vite comprendre les conséquences par son, qu'est-ce qui va se passer à cause de son absence. Bon. Donc, si vous cherchez à redonner un coup de feu, en quelque sorte, à la société en disant, il faut avoir des enfants, on va vous donner de l'argent pour que vous ayez des enfants. Mais vous ne pensez pas à remettre le bon Dieu dans la société. À quoi ça sert? À rien. Vous obtenez rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas remonter aux causes. Eh bien, ici, Saint-Pédis, après avoir justement expliqué comment le virus du modernisme fonctionne-t-il, Saint-Pédis va remonter aux causes. Il va remonter aux causes pour expliquer les causes, et ensuite, une fois qu'on a compris les causes du modernisme, qu'est-ce qu'il va faire? Dernière partie, les remèdes. D'accord? On constate l'étendue du désastre, la maladie, on remonte aux causes, d'où vient cette maladie, qu'est-ce qui provoque cette maladie. Et enfin, on cherche des médicaments, on cherche des façons d'enrayer la cause. En supprimant la cause, on supprime les effets. Vous avez effet, cause, remède. D'accord ? Bon. Donc Saint Pédis va tout faire pour justement remonter aux causes et expliquer d'où ça vient. Et Saint Pédis, justement, c'est son, le génie, certainement le génie de Saint Pédis. Saint Pédis va expliquer, a très bien compris les causes du modernisme. Et il va en donner trois. J'en ai déjà souvent parlé. Là, on vient dans le texte, un texte essentiel de Saint Pédis. Ce sont les principes de la causalité. D'où ça vient? Quand je prépare mon cours, j'ai un texte devant moi et je souligne les parties importantes. Et puis pour arriver à m'y retrouver, je mets devant chaque partie une étoile, deux étoiles, trois étoiles ou quatre étoiles. Une étoile, ça veut dire c'est quand même assez important, faut insister là-dessus. Deux étoiles, ça veut dire c'est plus important. Trois étoiles, ça veut dire c'est très important. Quatre étoiles, ça veut dire c'est fondamental. Pour les dernières pages de l'encyclique, j'ai mis des quatre étoiles partout, en haut de chaque page. Donc, Saint Pédis va donner trois causes. Il faut absolument les comprendre et les connaître. L'ignorance, l'orgueil, la curiosité ou l'amour des nouveautés. Ignorance, orgueil, amour des nouveautés. Alors, une fois qu'on a compris, il faut arriver à comprendre ça, c'est pas évident. Il faut comprendre que le modernisme, dont on souffre tous aujourd'hui, le modernisme vient de l'orgueil. Première racine. Deuxième racine, l'ignorance, le manque d'études. Troisième racine, l'amour des nouveautés, la curiosité. Bon. Après, il va falloir remonter au-dessus. Comment supprimer ces causes? Et on supprime ces causes par des remèdes. Donc contre l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la vertu opposée à l'orgueil? L'humilité. Bon. Quelle est la vertu opposée à l'ignorance? Comment s'appelle la vertu qui s'oppose à l'ignorance?
L'intelligence.
Non, l'intelligence n'est pas une vertu. L'intelligence, c'est un pouvoir de notre âme, puissance de notre âme. Il y a une vertu qui s'oppose à l'ignorance, ce qu'on appelle la studiosité. La studiosité, c'est-à-dire l'amour du travail, l'amour de l'étude, la studiosité. Et enfin, contre la curiosité et l'amour des nouveautés, la réponse c'est l'amour de la tradition. Donc il faut l'amour de la tradition, il faut la studiosité, l'étude, et il faut l'humilité. Si je refuse de pratiquer l'amour de l'étude, l'amour de la tradition et l'humilité, je ne pourrai jamais lutter contre l'orgueil, l'ignorance, et la curiosité, et donc le modernisme va continuer de se développer dans mon âme. D'accord? Donc vous voyez, c'est quelque chose d'absolument absolument fondamental à comprendre. Je vous donne ici le texte. Donc, le texte de Saint-Pédis, ce sont des textes absolument, absolument essentiels. Donc je reprends un petit peu ce que j'ai déjà expliqué, puis on avance. Hein. J'ai toujours travaillé comme ça, je m'excuse encore une fois pour les répétitions, mais elles sont indispensables. La cause prochaine et immédiate du modernisme, dit Saint-Pédis, résulte dans une perversion de l'esprit. Cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées nous paraissent pouvoir se réduire à deux. La curiosité et l'orgueil. C'est un spectacle lamentable que de voir jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté. Mais, dit Saint-Pédis, ce qui a incomparablement plus d'action sur l'âme pour l'aveugler et la jeter dans le faux, c'est l'orgueil. L'orgueil, il est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. De quelque côté qu'il s'y tourne, tout lui fournit un aliment et il s'y étale sous toutes ses faces. Alors là, voilà ces textes essentiels que j'ai déjà étudiés la dernière fois, mais on y revient, puis on va continuer. Orgueil, assurément. Cette confiance en eux qui les fait s'ériger en règle universelle. Orgueil, cette vaine gloire qui les représente à leurs propres yeux comme les seuls détenteurs de la sagesse et qui leur fait dire, hautain et enflé d'eux-mêmes, nous ne sommes pas comme le reste des hommes. Et qui, afin qu'il n'ait pas en effet de comparaison avec les autres, les pousse aux plus absurdes nouveautés. Orgueil, cet esprit d'insoumission qui appelle une conciliation de l'autorité avec la liberté. Orgueil, cette prétention de réformer les autres dans l'oubli de soi-même. Ce manque absolu de respect à l'égard de l'autorité sans en accepter l'autorité suprême, celle du pape. Non, en vérité, nulle route qui conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l'orgueil. Qu'on nous donne un catholique, qu'on nous donne un prêtre qui ait perdu de vue le précepte fondamental de la vie chrétienne, savoir que nous devons nous renoncer nous-mêmes si nous voulons suivre Jésus-Christ, et qui n'ait pas arraché l'orgueil de son cœur, ce laïque, ce prêtre est mûr pour toutes les erreurs du modernisme. C'est pourquoi, il parle aux évêques, notre premier devoir est de traverser ces hommes, superbe de les appliquer à d'infimes et obscures fonctions, qu'ils soient mis d'autant plus bas qu'ils cherchent à monter plus haut, et que leur abaissement même leur ôte la faculté de nuire. De plus, sondez soigneusement par vous-même et par vos évêques ou par les directeurs de vos séminaires les jeunes clercs, ceux chez qui vous aurez constaté l'esprit d'orgueil, écartez-les sans pitié du sacerdoce. Donc, voilà, on s'était arrêté là la dernière fois. Donc ces textes sont absolument fondamentaux. Donc Saint-Pédis, vous allez voir, non seulement il va faire comme moi, exactement ce que je fais, puis exactement je fais ce que fait Saint-Pédis, Saint-Pédis va répéter les mêmes choses sous d'autres formes. Donc il vient d'expliquer trois causes, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. Bon. Ensuite il dit, si des causes morales, nous venons aux causes intellectuelles, la première qui se présente, et le principe, et la principale, c'est l'ignorance. Bon. Oui, ces modernistes qui jouent au docteur de l'Église, qui portent au nu la philosophie moderne et regardent de si haut la scolastique, la philosophie de saint Thomas, n'ont embrassé celle-là en se laissant prendre à ses apparences fallacieuses que parce que, ignorant de celle-ci, il leur a manqué l'instrument nécessaire pour percer les confusions et dissiper les sophismes. Donc, Saint-Pédis commence par l'ignorance. N'oublions pas que, je vous ai expliqué, contre l'orgueil, il faut l'humilité, contre l'ignorance, il faut la studiosité. Mais ceci peut être aussi résumé par une autre vertu qui est fondamentale. La vertu clé aujourd'hui dont on a le plus besoin peut-être, et qui est une conséquence directement de l'humilité, c'est la vertu d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans humilité. Donc il faut donner, non seulement imposer aux jeunes qui se forment actuellement, la vertu d'obéissance, et pour cela il faut l'humilité. L'orgueil détruit l'humilité, et détruisant l'humilité, l'orgueil va rendre impossible la vertu d'obéissance. N'oubliez pas, ça je vous l'ai expliqué je ne sais pas combien de fois, que quelqu'un qui n'obéit pas, qui n'a jamais appris à obéir, sera quelqu'un non seulement qui va devenir orgueilleux, mais c'est quelqu'un qui deviendra incapable de commander. Je vous l'ai expliqué je ne sais pas combien de fois. Vous voyez ? Donc, il faut savoir remonter aux causes, et remonter aux causes pour pouvoir préparer la lutte contre ces causes. Donc, il faut étudier. Regardez les difficultés qu'ont nos propres fidèles à étudier. Bon. Beaucoup de nos fidèles prétendent ne pas avoir le temps d'étudier. Et peut-être que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour étudier. C'est vrai qu'on perd beaucoup de temps dans le monde moderne avec des bêtises, et donc on n'a pas beaucoup de temps pour faire les choses importantes. Le démon, si vous voulez, c'est ce qu'il fait. Il va amasser dans nos vies de tous les jours. Il va amasser les choses secondaires pour qu'on n'ait plus le temps de s'occuper des choses principales. Alors. Saint-Pédis continue. C'est d'une alliance de la fausse philosophie avec la foi qui est née, pétrie d'erreurs leur système. Donc Saint-Pédis explique, le système moderniste, il vient d'une fausse philosophie. La philosophie, attention, c'est l'étude de la vérité, on peut dire et s'expliquer ça comme ça, avec une lumière naturelle. Si l'intelligence ne fonctionne plus normalement, la lumière naturelle va s'éteindre et du coup, les gens n'arriveront plus à comprendre ce qui se passe. Donc, il faut revenir, puisque Saint-Pédis dit bien que c'est de la fausse philosophie que viennent toutes ces erreurs, donc il faut réapprendre aux gens à penser droit. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué en début de ce cours sur les actes du magistère. Première chose à faire, réapprendre aux gens à penser droit. Je vous ai donné la dernière fois trois petit truc en quelque sorte pour reconnaître un prêtre moderniste ou quelqu'un d'un imprégné de modernisme. Ce serait intéressant que tous ceux qui m'écoutent sur internet, je sais qu'il y a un millier de personnes qui m'écoutent sur internet, moi j'aimerais vous poser la question et vous pourrez me dire, ceux qui ont le courage de me dire, combien sont capables de répondre à cette question que j'ai expliquée la dernière fois. J'ai donné trois petits signes par lesquels on peut reconnaître un prêtre moderniste ou un évêque imprégné de modernisme. Je voudrais savoir de tous ceux qui m'écoutent sur internet et qui ne trichent pas sur des notes qu'ils auraient pu prendre sur le cours de la dernière fois, quels sont ces trois signes? Je veux bien savoir combien de personnes sont capables de répondre à cette question. J'ai bien peur que très peu soient capables de répondre. J'ai donné trois signes la dernière fois. Premier signe, le mépris des pères de l'Église. Oui. Des pères de l'Église. Le mépris de l'interprétation des évangiles à partir des pères de l'Église. Deuxième signe, le mépris de la théologie, de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Troisième signe, le mépris des exercices de saint Ignace. Parce que là, on touche à l'âme même de l'Église. Les exercices de Saint Ignace, ils n'ont pas été donnés à Saint Ignace par n'importe qui. Ils ont été apportés à Saint Ignace au XVIe siècle par la Très Sainte Vierge Marie elle-même. C'est elle qui, dans la grotte de Morez, était venue apporter à Saint Ignace les exercices de Saint Ignace. Voilà la raison de leur force. Quand vous avez quelqu'un devant vous, qui soit prêtre, évêque ou prétendu pape, qui commence à mépriser l'interprétation traditionnelle des pères de l'Église concernant les évangiles, qui méprise les exercices de Saint Ignace et qui méprise la philosophie et la théologie de Saint Thomas d'Aquin, vous avez déjà quelqu'un qui a un cancer généralisé avec des métastases partout qui s'appelle le modernisme. D'accord ? Alors voyons un petit peu le texte de Saint Pédis. Si encore les modernistes apportaient moins de zèle et d'activité à propager ce modernisme, mais telle étant cela leur ardeur, telle leur opiniâtreté de travail qu'on ne peut sans tristesse les voir dépenser à ruiner l'Église de si belles énergies, quand elles lui eussent été si profitables et bien employées. Leurs artifices pour abuser les esprits sont de deux sortes. S'efforcer d'écarter les obstacles qui les traversent, puis rechercher avec soin, mettre activement et patiemment en œuvre tout ce qui peut leur servir. C'est-à-dire qu'ils vont, les modernistes vont ridiculiser tous ceux qui cherchent, surtout les papes traditionnels, les papes de toujours, qui vont chercher à les prévenir du modernisme. On va les ridiculiser, les éliminer, pour avoir le champ libre et faire ce qu'on veut avec les intelligences. Bon. Et alors là, écoutez bien ce que dit Saint Pédis, ça c'est des textes absolument fondamentaux de Saint Pédis. Donc Saint Pédis dit, ces gens vont vouloir détruire les fondations même de l'Église. Pour pouvoir détruire les fondations même de l'Église, il faut attaquer les intelligences. J'ai déjà expliqué, je ne reviens pas. Et donc, il sent très bien, dit Saint Pédis, qu'il y a trois choses qui barrent la route aux modernistes. Il faut bien écouter ça. La philosophie scolastique, c'est-à-dire la philosophie de Saint Thomas, l'autorité des pères de l'Église et la tradition, d'une part, et le magistère de l'Église, troisième point. Donc, trois choses. Philosophie scolastique, scola, c'est l'école. La philosophie scolastique, c'est la philosophie de l'ange de l'école. L'ange de l'école, c'est Saint Thomas d'Aquin. On l'appelle l'ange de l'école parce qu'il a beaucoup parlé des anges. Donc, philosophie scolastique, c'est la philosophia perennis, la philosophie perpétuelle, éternelle, de Saint Thomas d'Aquin. L'autorité des pères et la tradition. L'autorité des pères, c'est les grands pères de l'Église grecque et les pères de l'Église latine surtout, et la tradition de l'Église, c'est-à-dire tout le magistère de l'Église. Et en fait, la tradition est le magistère de l'Église. Philosophie scolastique, autorité des pères, et la tradition est magistère de l'Église. Et à ces trois choses, les sapidistes, les modernistes font une guerre acharnée. Donc, comment on repère un moderniste? Un moderniste va être repéré justement par ce mépris, d'abord, de Saint Thomas d'Aquin et de la philosophie scolastique. Bon. Mépris l'autorité des pères et de la tradition et mépris les magistères traditionnels de l'Église. Ils vont tout faire pour ridiculiser cela à longueur de journée. Et vont faire une guerre acharnée à ces choses-là. On peut donner des comparaisons pour vous aider à comprendre. Regardez ce qui se passe, par exemple. Moi, j'ai vu ça quand j'étais surtout au Mexique. Les prêtres modernistes, surtout dans le sud du Mexique, dans l'état de Oaxaca, j'ai vu ça de mes propres yeux. Comment ils essayaient par tous les moyens de supprimer la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie dans les âmes des enfants. Parce que la Très Sainte Vierge Marie est apparue au Mexique en 1531, c'est la grande apparition de Notre-Dame de Guadeloupe. Donc, les prêtres modernistes faisaient tout pour empêcher la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, surtout la dévotion au chapelet. Parce qu'ils savaient très bien que quand les enfants apprenaient à aimer le chapelet, ils allaient aimer l'Église, ils allaient aimer la tradition de l'Église, ils allaient aimer toute la philosophie scolastique, l'autorité des pères de l'Église, le magistère de l'Église, spontanément, parce que quand on aime la Très Sainte Vierge Marie, celui qui aime la mère va aimer le fils. C'est des choses parfaitement logiques. Et j'ai vu comment ils faisaient pour détruire la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc, Saint Pédis dit, les modernistes font une guerre acharnée à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin, à l'autorité des pères de l'Église dans l'interprétation de l'Écriture sainte, et la tradition, et la guerre au magistère de l'Église. Ensuite, Saint Pédis continue. Ignorance ou crainte, à vrai dire l'un et l'autre, c'est un fait qu'avec l'amour des nouveautés va toujours de pair la haine de la méthode scolastique. Avec l'amour des nouveautés va toujours la haine de la philosophie, la théologie de Saint Thomas d'Aquin. Et il n'est pas d'indice plus sûr que le goût des doctrines modernistes commence à poindre dans un esprit que d'y voir naître le dégoût de cette méthode. Donc un des points pour repérer le modernisme d'après Saint Pie X, c'est le mépris de saint Thomas d'Aquin. Rappelez-vous, c'est un des points que moi-même, je vous ai donné comme petit truc pour arriver à repérer les modernistes. Bon. Que les modernistes, dit Saint Pie X, et leurs fauteurs se souviennent de la proposition condamnée par le pape Pie IX. La méthode et les principes qui ont servi aux antiques docteurs scolastiques dans la culture de la théologie ne répondent plus aux exigences de notre temps ni au progrès des sciences. Ça, c'est le syllabus de Pie IX 1864 qu'on a déjà étudié. Donc les modernistes disent les anciens principes qui ont servi aux antiques docteurs scolastiques, c'est-à-dire l'esprit de saint Thomas d'Aquin, ne répond plus aux exigences de notre temps ni au progrès des sciences. Le monde moderne ne peut plus comprendre les choses comme les gens du Moyen-Âge, parce qu'on a aujourd'hui une intelligence prodigieuse, alors que les gens du Moyen-Âge étaient bêtes comme leurs pieds. En gros, c'est ce qu'ils vont essayer de vous dire. Donc, il faut comprendre que c'est l'inverse. Les gens du Moyen-Âge étaient bien plus intelligents que nous. Parce qu'ils n'avaient pas une intelligence qui était détruite surtout par le monde virtuel dans lequel on nous fait vivre. Les jeunes modernes, vous voyez ça dans la rue, moi ça me frappe à chaque fois que je vais en ville. Aussi quand on passe, par exemple, quand je vais en ville à Albi, surtout que si j'y vais à une heure de sortie du collège, et que je sors du collège, je vois les jeunes qui sortent du collège d'école secondaire, par exemple, donc des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, ils sortent du collège, ils ont tous pratiquement à la main un téléphone portable, ils sont déjà glués sur leur téléphone portable. On sent qu'ils sont absolument incapables de se détacher d'un monde complètement virtuel qui n'a plus rien à voir avec la réalité. D'accord ? Donc, déjà là, on voit avec le texte de Saint-Pie X que pour enlever le modernisme d'une âme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les pousser à pratiquer les moyens d'éliminer ces virus. Il y a en quelque sorte trois virus qui sont rentrés dans l'âme. Bon, le virus de l'orgueil, le virus de l'ignorance, le troisième virus, c'est le virus de l'amour des nouveautés, la curiosité. Donc il faut impérativement, si on veut s'en débarrasser, il ne s'agit pas simplement d'enlever de cette âme les trois virus. Vous ne pouvez pas attraper le virus de l'ignorance, le virus de l'orgueil, le virus de l'amour des nouveautés par le bout de la queue et l'enlever et jeter dans la poubelle. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Il va revenir, ils vont revenir tout de suite. Ces virus vont très rapidement revenir. Il faut aller aux causes pour pouvoir être sûr que les virus ne reviennent pas dans l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir fermer l'entrée à ces virus de l'extérieur pour empêcher que ces virus reviennent dans l'âme. Donc il va falloir fermer ça avec les vertus opposées. Donc entre l'orgueil, l'humilité et l'obéissance, puisque les deux sont unis, contre l'ignorance, l'étude, et contre l'amour des nouveautés, l'amour de la tradition. Donc faire connaître la tradition à tous ces jeunes pour que justement ils ne cherchent pas à trouver ailleurs les solutions à leurs problèmes. Les gens cherchent partout des solutions sauf là où il faut les trouver. On ne trouve pas les solutions au mal du monde moderne sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, avant, les gens comprenaient ça. Quand quelqu'un avait un gros problème affectif, un gros problème de découragement, qu'est-ce qu'il faisait avant, au Moyen-Âge? Quand il y avait des gens qui se décourageaient, qui avaient des malheurs amoureux, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'ils allaient voir? Ils allaient voir le prêtre, et ils allaient se confesser. La confession, déjà, allait dégager le terrain. Maintenant, qu'est-ce que fait un jeune de 18 ans qui a des gros problèmes de découragement parce que sa petite amie l'a quitté et est partie avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir le prêtre? Non, ils vont voir qui? Le psychanalyste? Le psychologue? Bon, ils vont voir des gens qui ont tous un point commun, ils sont à fond contre l'Église catholique et contre Dieu. Ils vont plus voir le prêtre pour se confesser, pratiquer l'humilité, reconnaître qui sont les pécheurs qui mettent le péché dehors, ils vont voir des psychanalystes ou des psychiatres ou des psychologues qui vont au contraire les pousser en disant, mais c'est parfaitement normal, continuez dans ce domaine-là, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va leur expliquer, continuez dans ce domaine-là, et donc les gens ne guérissent jamais. On le voit avec tout ce qui se passe actuellement. Je vous ai déjà donné ces exemples la dernière fois. Tous ces exemples qui sont maintenant, qui ont pignon sur rue et là, c'est tous ces jeunes qui prétendent à 10 ou 15 ans pouvoir changer de sexe et d'hommes devenir des femmes ou de femmes devenir des hommes. Quand ils vont voir des médecins pour demander à avoir des bloqueurs de puberté ou se bourrer d'œstrogènes s'ils sont des hommes ou de testostérone s'ils sont des femmes, pour déglinguer complètement leur système immunitaire, eh bien, au lieu de faire ce que ces médecins doivent faire, qu'est-ce qu'ils font? Les médecins, ils devraient leur dire, au contraire, essayons de revenir au réel. Monsieur, vous avez un chromosome X, un chromosome Y, ça vous plaise ou non, vous êtes un homme. Madame, vous avez deux chromosomes X, ça vous plaise ou non, vous êtes une femme. Donc, puisque vous êtes une femme, toutes les cellules de votre corps ont le même type de chromosome, vous êtes une femme biologiquement parlant, donc on va vous aider à retrouver votre dignité de femme. Si au contraire, tous vos chromosomes sont les chromosomes sexuels sont des chromosomes X et Y, vous êtes un homme, on va vous aider à retrouver votre dignité d'homme. Mais les gens modernes ne font pas ça. Au lieu d'aider, de revenir aux causes pour enlever les bêtises modernes et les faire revenir dans la réalité, dans le réel, ils les laissent vivre dans un monde complètement virtuel et ça se finit en général par un suicide à 18 ou 20 ans. D'accord? Alors, continuons de creuser un petit peu avec Saint-Pédis. Vous allez voir que Saint-Pédis, dans toutes ces dernières pages, on est à la page 16, donc j'ai encore 3 pages, 17, 18, 19, un petit peu à la page 20, pour arriver à la fin de l'encyclique, voyons un petit peu comment Saint-Pédis explique tout ça. Et d'abord, il parlait de la tradition. Donc, rappelez-vous, 3 choses barrent la route aux modernistes, la philosophie de Saint-Thomas, l'autorité des pères et de la tradition, et le magistère de l'Église. Donc d'abord la tradition. La tradition, dit Saint-Pédis, les modernistes vont s'efforcer d'en fausser perfidement le caractère et d'en saper l'autorité afin de lui ôter toute valeur. Bon. La tradition de l'Église, qui la protège? Qui est en charge de la tradition de l'Église? Qui a pour rôle de garder intact le dépôt de la foi? Le dépôt de la foi, c'est le magistère. Le dépôt de la foi, c'est la tradition. Qui est en charge de la tradition? Qui est celui dont le rôle est de garder le dépôt de la foi? Réponse, c'est le pape. Le rôle du pape, c'est de garder intact le dépôt de la foi qui est bloqué en quelque sorte, le compteur est bloqué à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. J'ai déjà expliqué ça, je ne sais pas combien de fois. Donc le rôle du pape, c'est garder le dépôt de la foi. Le pape n'a aucune autorité pour changer le dépôt de la tradition. Le pape n'a aucune autorité pour changer le dépôt de la foi. Un pape n'a aucune autorité pour modifier le catéchisme. Qu'est-ce que fait Bergoglio à Rome aujourd'hui? Il le fait maintenant de façon ouverte. Il cherche à tout changer, modifier complètement. On va changer l'enseignement du catéchisme sur l'homosexualité, changer l'enseignement du catéchisme sur les vices contre nature, sur le mariage, sur le baptême, sur la sainte communion, sur la messe, sur tout. Bon. Alors, il faut donc, au contraire, redonner toute l'autorité à ceux qui sont chargés de protéger la foi. Et le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont chargés par Dieu de protéger la foi, de garder le dépôt de la foi, sont précisément ceux qui vont tout faire pour l'attaquer et la détruire. C'est ça le drame. Est-ce qu'il est possible pour un pape, qui est vraiment pape, de détruire le dépôt de la foi? La réponse est non, puisque c'est son rôle. Il est pape pour ça, il est infaillible pour ça en matière de foi et de mœurs. Quand il parle avec l'autorité comme pape pour obliger toute l'Église, il parle pour maintenir justement ce dépôt de la foi. Donc si quelqu'un qui se prétend pape détruit le dépôt de la foi, c'est aux uns de ne pas être pape. C'est comme ça que ça se passe. Donc on ne peut pas avoir un pape qui, étant pape, détruit le dépôt de la foi, puisque Dieu a promis que les forces de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Alors voyons le texte de Saint-Pédis. Bon. Il va remonter au deuxième concile de Nicée. et fera toujours foi, loi pour les catholiques. Ce concile condamne ceux qui osent, sur les traces des hérétiques impies, mépriser les traditions ecclésiastiques et inventer quelques nouveautés. En matière, attention, bien comprendre les mots, en matière de théologie, en matière de catéchisme, l'Église a horreur des nouveautés. Vous prenez un catéchisme du Xe siècle, vous prenez un catéchisme du Concile de Trente, au XVIe siècle, vous prenez un catéchisme de Saint Pie X au XXe siècle, c'est exactement les mêmes vérités. Il n'y a aucun changement. Il n'y a pas un iota de changé. Il y a toujours dix commandements, c'est toujours les mêmes péchés. Quand Bergoglio vient de préciser au dernier synode, hein, qui est en train de se terminer, qui est sur la voie de la fin, je pense, à Rome, ils parlent de nouveaux péchés, les nouveaux péchés d'aujourd'hui. Bon. Il n'y a pas de nouveaux péchés, parce que le péché originel est toujours là. C'est toujours les mêmes péchés, donc puisqu'il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a pas besoin de nouveaux commandements. C'est toujours les mêmes, il y a toujours les dix commandements pour bloquer les différents péchés. Bon. Donc, de faire croire aux gens, comme le fait Bergoglio, de faire croire qu'il y a des nouveaux péchés, que donc, puisqu'il y a des nouveaux péchés, il faut des nouveaux commandements, il faut des nouveaux sacrements, et c'est la destruction de tout. C'est ce que veut faire Père Bergoglio, en fait, il est en train d'y arriver, hein. C'est de détruire tout ce qui peut protéger la foi traditionnelle. Et au contraire, d'ouvrir la porte à tout ce qui peut détruire la foi traditionnelle. D'accord? Alors, voyons le texte. Du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée condamne donc ceux qui osent, sur la trace des hérétiques impies, mépriser les traditions ecclésiastiques et inventer quelques nouveautés, ou chercher avec malice ou avec astuce à avoir renversé quoi que ce soit des traditions légitimes de l'Église catholique. Et quand on étudie les premiers papes, surtout l'histoire de l'Église, c'est comme ça dans tous leurs discours. Comme nos anciens ont enseigné, comme les papes avant moi ont enseigné, moi en tant que pape, je reprends l'enseignement des anciens et je reconfirme tout ce que les anciens ont toujours fait. Et le pape interdisait aux évêques d'avoir une interprétation différente de celle qui avait toujours été dans l'Église. Qu'on explique de façon plus plénière certains dogmes, c'est autre chose. Il est évident que Saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui n'est pas un père de l'Église, qui est un docteur de l'Église, mais qui n'est pas un pape, donc il n'est pas infaillible comme un pape. Saint Thomas d'Aquin a expliqué, par exemple, dans son traité sur la grâce de façon plus profonde, certainement, que Saint Augustin. Saint Augustin, c'est 4e siècle. Il a fait des traités magnifiques sur la grâce, puis c'était repris par Saint Bernard, plus tard, je crois que c'est au 11e siècle. Saint Bernard a repris les mêmes idées, les a développées encore, donc il est monté encore un peu plus haut, mais ça n'empêche pas qu'en montant plus haut, il respecte les fondations qui ont été faites par ses devanciers, notamment par Saint Augustin. Puis, au 13e siècle, Saint Thomas d'Aquin va arriver, va reprendre les textes de Saint Augustin, va reprendre les textes de Saint Bernard, et va compléter tout ça en montant encore un peu plus haut. Bon. Donc, il détruit rien de la tradition, il explicite la tradition. Vous voyez? C'est comme, on peut prendre un exemple pour expliquer, parce que les gens ont souvent du mal à expliquer ça. Imaginez, vous avez un microscope. D'accord? Vous avez un microscope qui grossit 200 fois. Vous prenez une goutte d'eau avec d'eau saumâtre, par exemple, donc d'eau sale, par exemple, d'un marais dans lequel il y a plusieurs millions de bestioles qui se promènent, qui sont invisibles à l'œil nu, et vous regardez avec un grossissement de 200. Vous allez voir quoi? Vous allez voir une vingtaine de bestioles qui se promènent dans votre goutte. Dans votre goutte qui est entre deux lames, qui était examinée au microscope à un grossissement de 200. Vous dites oui, il y a une dizaine de bestioles qui se promènent là-dedans. Puis vous passez à un grossissement de 2000. Vous changez l'objectif, vous passez à un grossissement de 2000. C'est-à-dire vous multipliez le grossissement de 10. 200, 2000. Vous regardez la même goutte d'eau avec un grossissement de 2000, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir 300 ou 400 animalcules dans la goutte d'eau parce qu'il y a plus fort grossissement. Maintenant, vous passez à un grossissement de 20 millions de fois. Imaginez que ça puisse se faire avec les microscopes électroniques. Maintenant, c'est un grossissement énorme. Avec les microscopes atomiques qui commencent à apparaître, il y a des visions énormes, des grossissements énormes. On a commencé à arriver maintenant atteindre l'atome même. Donc c'est des grossissements de millions de fois. Et à ce moment-là, vous allez découvrir qu'il y a des millions et des millions de bestioles qui se promènent dans votre goutte d'eau. Et vous allez pouvoir voir des tas de détails que vous ne voyez pas au début. Est-ce que ça veut dire que les anciens ont eu tort? Non, parce que les anciens, ils travaillaient avec leur méthode de travail. Ils avaient un grossissement de 200. Puis ceux qui sont arrivés après avaient un grossissement de 2000, ils ont vu plus de choses. Puis après ceux qui sont arrivés, ils ont un grossissement de 200 000, ils ont vu encore plus. Et les modernes voient qu'il y a un grossissement encore plus grand. Et d'autres personnes après nous, avec le progrès de la science, avec les progrès de tous ces rayonnements, vont pouvoir certainement, dans encore quelques années, vont pouvoir aller encore plus loin. Vous voyez, au début, on pensait que les atomes étaient un amas un petit peu figé, et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait, différentes particules qui se promenaient dans le noyau même, qui étaient dans le noyau. Et après, on a découvert d'autres rayons issus du noyau. On a découvert, par exemple, les rayons X, les rayons gamma, etc. Puis après, encore plus on avance dans les progrès de la science, plus on augmente le grossissement, plus on peut voir des choses qu'on ne voyait pas au début. Mais ça fait la même chose en théologie. Donc, Saint Augustin étudiait la grâce avec un grossissement de 200. Saint Bernard va étudier la grâce avec un grossissement de 2000. Saint Thomas d'Aquin va étudier la grâce avec un grossissement de 20 000. Et donc, il voit plus loin. Mais c'est les mêmes choses qui sont étudiées. Ça ne veut pas dire que Saint Augustin s'est trompé, ça veut dire que Saint Augustin était limité dans ce qu'il pouvait voir parce que, en son temps, les progrès de la philosophie n'avaient pas encore été complets.
Bien sûr.
Et en fait, on voit très bien qu'avec Saint Thomas d'Aquin, on atteint en fait un sommet. En soi, il est possible qu'un jour, Dieu nous envoie un autre théologien encore plus grand que Saint Thomas. C'est possible. Bon. Saint Thomas, il est mort, il n'a même pas 50 ans. Imaginez ce qui serait passé si Saint Thomas avait vécu jusqu'à 95 ans. Ben, imaginez ce qui aurait pu se passer. Quand on voit déjà ce qu'il a écrit, alors qu'il est mort, il n'a même pas 50 ans, on peut imaginer. Donc on peut imaginer qu'un jour, Dieu nous envoie un autre Saint Thomas encore plus intelligent que lui et qui aille encore un peu plus profond. C'est possible. Mais ça ne changera pas l'enseignement traditionnel de l'Église sur la grâce. Si un philosophe, si un théologien, étudiant un point de doctrine de l'Église arrive à une conclusion qui s'oppose au catéchisme, qui s'oppose à l'enseignement traditionnel de l'Église, c'est qu'il se trompe, c'est tout. C'est qu'il se trompe. Si, avec un grossissement très important sur le microscope, il arrive à dire, eh bien, tout simplement, la présence réelle, c'est de la blague, ça n'existe pas, parce qu'on voit rien que le microscope, donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent avec son corps, son âme, son sang, sa divinité, dans la Sainte Hostie, après la consécration du prêtre. Bon. Eh bien, il ne peut pas arriver à quelque chose comme ça s'oppose à la foi. La foi ne peut pas changer. On peut changer les explications, on peut améliorer les explications, on ne peut pas changer la foi. La foi dit qu'il y a un Dieu véritable et un Dieu en trois personnes. Ça, c'est dogme de foi. La foi dit que notre Seigneur Jésus-Christ est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la Sainte Eucharistie. La foi dit que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. La foi dit que notre Seigneur Jésus-Christ est Christ roi socialement, qui va être roi dans la société par nature et par droit de conquête. C'est la fête de dimanche prochain, la grande fête de Christ roi dimanche prochain. Ces choses-là ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce que l'Église engage son infaillibilité. C'est pas possible d'avoir un docteur de l'Église, quelqu'un soi-disant très intelligent, qui en arrive à une conclusion en disant « Maintenant que nous avons fait d'énormes progrès en théologie, nous savons, on peut dire, que la présence réelle n'existe pas. » C'est pas possible. Ça s'oppose à la foi. Oui. Donc, souvent, les gens me posent des questions. Ils me disent « Monsieur, vous n'avez pas peur que, justement, la science prenne le pas sur la foi ?» C'est impossible. Parce que la lumière de la science humaine est une lumière humaine. C'est l'intelligence humaine. La lumière qui éclaire la foi, c'est une lumière divine. Dieu est infiniment supérieur à l'homme. Vous voyez? Et justement, c'est ça le modernisme. Le modernisme, c'est l'homme qui se prend pour Dieu et qui pense que la lumière qu'il peut utiliser pour examiner les choses de Dieu est une lumière de plus en plus importante. Donc, puisqu'il se prend pour Dieu, j'interprète les choses avec une lumière complètement divine. Mais l'homme n'est pas Dieu. Vous voyez? Alors, continuons avec le texte de Saint de Saint Pédis. Bon. Alors, donc, il reprend d'abord le concile de Nicée, les premiers conciles écuméniques. Il condamne, donc, Le concile de Nicée condamne ceux qui osent sur les traces des hérétiques impies, mépriser les traditions ecclésiastiques et inventer les nouveautés. On a déjà vu. Deuxièmement, il rajoute, attention, ce même concile condamne ceux qui cherchent à renverser quoi que ce soit des traditions légitimes de l'Église catholique. On n'a pas le droit de toucher à la tradition de l'Église catholique parce que ça représente l'enseignement de la foi catholique. Bon. Ensuite, il va passer à un autre concile écuménique, le quatrième concile de Constantinople. Et voilà ce que dit ce concile. C'est pourquoi nous faisons profession de conserver et de garder les règles qui ont été léguées à la Sainte Église catholique et apostolique, soit par les saints et les très illustres apôtres, soit par les conciles orthodoxes généraux et particuliers, et même par chacun des pères, interprètes divins et docteurs de l'Église. Donc le quatrième concile du Constantinople répète les mêmes choses. On suit l'enseignement des apôtres, des conciles orthodoxes et des pères de l'Église qui sont les interprètes divins et les docteurs de l'Église. Hein, qu'on appelle les lieux théologiques. Les lieux théologiques. Les lieux théologiques, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Vous prenez le catéchisme écrit, par exemple, du concile de Trente. Trente, c'est une ville, je ne sais jamais si c'est en Italie ou en Autriche, je crois que c'est entre les deux. Le concile de Trente, le catéchisme du concile de Trente, c'est 1570 à peu près. Bon, 16e siècle, le texte du concile de Trente est protégé par l'infaillibilité pontificale. C'est le magistère ordinaire de l'Église. Donc, l'enseignement de l'Église du concile de Trente, vous prenez aujourd'hui en 2024 un texte, le texte du concile de Trente, du catéchisme du concile de Trente, écrit en 1570, il n'y a pas une ride. Le texte n'a pas besoin d'être changé. On peut expliquer un peu plus avec des mots peut-être plus adaptés au monde moderne, parce qu'il y a des mots qui ont changé de sens, par exemple, avec le temps, mais on ne peut pas changer le texte. Le texte, les vérités enseignées par le catéchisme du Concile de Trente sont toujours les mêmes vérités enseignées aujourd'hui. Bon. Pour le texte du catéchisme de Saint Pie X, il a écrit ça en 1910, donc 3 ans après avoir écrit le texte moderniste, contre le modernisme. 1910, catéchisme de Saint Pie X, ça n'a pas pris une ride. Encore aujourd'hui, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, qui venaient de Nice, très gentils, des gens charmants, et qui connaissaient, qui voulaient un petit peu avoir une base sur laquelle se étudier un petit peu la foi catholique. Qu'est-ce que je leur ai donné comme catéchisme? Le catéchisme de Saint Pie X. Voilà, vous étudiez ça. Il y a une centaine de pages, mais vous avez tout le résumé de la foi catholique. La foi catholique, ça a été ça pendant 20 siècles. Dans 20 siècles, je serais plus là, mais si j'étais là dans 20 siècles, vous reveniez me voir dans 20 siècles, je vous donnerais le même catéchisme. Il n'y a pas besoin d'adapter ce catéchisme à un monde moderne en évolution, parce que Dieu, lui, n'évolue pas. D'accord? Donc, on continue avec le pape Saint Pie X. Il dit, les papes Pie IV et Pie IX ont-ils ordonné l'insertion dans la profession de foi la déclaration suivante. J'admets et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et ecclésiastiques et toutes les autres observances et constitutions de l'Église catholique. Quand je prêche les exercices de Saint Ignace, je les prêche 8 fois par an. Bon, petite parenthèse, n'oubliez pas que j'ai mis sur le site le programme des retraites 2025, il y en a 8, les 2 premières du mois de mai sont déjà pleines. Donc j'ai déjà 30 personnes inscrites pour les retraites. Donc il y a 48 places. Donc il n'y a plus que 18 places, alors attendez pas au dernier moment pour vous inscrire. Hein. Donc, attendez, où est-ce que j'en suis? Donc, à la fin des exercices de Saint-Ignace, de 5 jours, tout à fait à la fin, on finit la retraite avec un salut du Saint-Sacrement. Au cours de ce salut du Saint-Sacrement, je fais prêter à tous les retraitants la profession de foi de l'Église catholique, qui est la même profession de foi que nous demandons. Par exemple, un orthodoxe qui rejoint l'Église catholique, un protestant qui devient catholique, on lui demande une profession de foi. Et tous les retraitants, tous ensemble, devant le Saint-Sacrement exposé, vont prêter la profession de foi. Et dans cette profession de foi, il y a effectivement cette phrase. J'admets et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et ecclésiastiques et toutes les autres observances et constitutions de l'Église. Je reconnais tout ce qui a été toujours enseigné par l'Église pendant 20 siècles. Donc, est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'un vrai pape puisse enseigner le contraire de ce qui a été enseigné infailliblement avant? C'est impossible. Si on dit qu'un pape de 2024 peut infailliblement enseigner le contraire de ce qu'un pape du 19e siècle a enseigné infailliblement, à ce moment-là, c'est la fin des haricots. On ne peut plus rien faire. C'est comme si je vous demandais, tracez-moi un cercle carré. Est-ce que vous êtes capable de me tracer sur une feuille de papier un cercle carré? Mais c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'un cercle par définition ne va pas être un carré par définition ne va pas être un cercle. D'accord? Alors, on continue avec le texte de Saint-Pélice. Donc il rappelle l'enseignement de Pie IX. Puis il dit, naturellement, les modernistes étendent au Saint-Père, le Père de l'Église, le jugement qu'ils font de la tradition. Avec une audace inouïe, ils les déclarent personnellement dignes de toute vénération. Donc ce sont des saints, mais oui, saint Augustin c'est un grand bonhomme, saint Thomas d'Aquin c'était un très grand bonhomme, saint Bernard c'était un très grand bonhomme, et saint Pie c'était un grand bonhomme, et pape Pie IX était un grand bonhomme. Mais, ils sont d'une ignorance incroyable en matière d'histoire et de critique, et ils ne peuvent être excusés que par le temps et les vécures. Il y a tous ces gens qui ont fait, là, qui ont rappelé la tradition de l'Église, sont des grands bonhommes, sont des grands saints, mais oui. Mais ils sont d'une ignorance incroyable en matière d'histoire et de critique, et qui ne peut être excusé que par le temps et les vécu. C'est des pauvres types qui étaient très saints, mais qui vivaient à une époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur, il n'y avait pas de gens intelligents comme nous. Comprenez, nous, en 2024, on est beaucoup plus intelligents que les gens du Moyen-Âge, et donc, on peut aller beaucoup plus loin pour changer complètement la foi catholique. Et c'est ce qu'ils font actuellement avec les nouvelles déclarations de Bergoglio, avec le synode à Rome, etc. Ils veulent tout changer. D'accord? Alors, vous voyez, là, on voit, quand Saint-Pédis condamne ceux qui, justement, méprisent les pères de l'Église, les anciens, qui ont une ignorance incroyable en matière d'histoire et de critique, qu'est-ce qu'on voit pointer derrière ça? Derrière ça, on voit pointer tout simplement un orgueil absolument incommensurable. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint-Pédis au début. L'orgueil, dit Saint-Pédis, nulle route qui conduise plus droit et plus vite au modernisme que l'orgueil. D'accord? L'orgueil est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. Et là, on le voit extrêmement, extrêmement bien. Bon. Donc, autre chose, là, sur le texte fondamental de Saint-Pédis. Autre chose. Les modernistes, disent Saint-Pédis, ils parlent en 1907. D'accord? À une époque, on est largement avant Vatican II. N'oubliez pas qu'en 1907, tous les prêtres sont en soutane. Il n'y a qu'une seule messe, la messe traditionnelle, celle que je dis tous les matins, c'est la même messe qui était dite sous Saint-Pédis. Le catéchisme était le même enseigné dans toute l'Église, c'était le catéchisme du Concile de Trente. D'accord? Le magistère de l'Église, c'était le magistère traditionnel de l'Église, on ne parlait pas de Vatican II. Eh bien, Saint-Pédis va prévenir justement, attention, ces gens-là sont en fait en train de détruire les fondations mêmes de l'Église. Et voilà ce qu'il dit. Saint-Pédis. C'est pour ça que je vous dis, Saint-Pédis condamne en 1907 tout ce qui est enseigné maintenant par Bergoglio. Bon. Par exemple, Saint-Pédis explique, Saint-Pédis qui parle, 1907, les modernistes s'évertuent à amoindrir le magistère ecclésiastique, en infirmer l'autorité, soit en dénaturant sacrilègement l'origine, le caractère, les droits, soit en rééditant contre lui le plus librement le monde, les calomnies des adversaires. Au clan moderniste s'applique ce que notre prédécesseur écrivait, la douleur dans l'âme, de point, afin d'attirer le mépris et l'odieux sur l'épouse mystique du Christ, en qui est la vraie lumière, les fils des ténèbres ont accoutumé de lui jeter à la face des peuples une calomnie perfide et renversant la notion, la valeur des choses et des mots, la représentant comme ami des ténèbres, fautrice d'ignorance, ennemi de la lumière, de la science et du progrès. C'est exactement ce que disent les modernistes d'aujourd'hui. Quand les modernistes d'aujourd'hui parlent de saint Thomas d'Aquin, parlent des grands docteurs de l'Église, ils parlent des gens qui sont amis des ténèbres, fauteurs d'ignorance, ennemis de la lumière, ennemis de la science, ennemis du progrès. Hein? Tout ça, c'est condamné par Saint-Pédis. Après cela, dit Saint-Pédis, il n'y a pas lieu de s'étonner si les modernistes poursuivent de toute leur malveillance, de toute leur acrimonie, les catholiques qui luttent vigoureusement pour l'Église. Et à la suite de ces textes de Saint-Pilice, il va y avoir, ou ça a déjà commencé un peu avant même, il y avait entre, avant Saint-Pilice, il y a eu Pie IX. Bon, il y a eu Pie IX, Léon XIII, puis Saint-Pilice. Bon. Pie IX, avec son texte, le syllabus, va déjà condamner toutes ces idées qui vont aussi être condamnées par Saint-Pilice. C'est déjà dans Pie IX. On a déjà expliqué ça. Quand j'ai expliqué au début de ces cours, j'ai expliqué en long, en large et en travers, l'encyclique Quanta Courant 1864 et le syllabus, un groupe de 80-90 propositions condamnées par l'Église. Bon. Eh bien, Saint-Pilice va reprendre les mêmes choses et les modernistes n'auront qu'une seule idée en tête d'amoindrir le magistère ecclésiastique, infirmer l'autorité, attirer le mépris et l'odieux sur l'épouse mystique du Christ. Attirer donc le mépris et l'odieux sur l'Église catholique. Bon. Et accuser l'Église catholique traditionnelle d'être amie des ténèbres, fautrice d'ignorance, ennemie de la lumière, de la science et du progrès. Et c'est ce qui est dit aujourd'hui. C'est ce que disent aujourd'hui les gens. Par exemple, prenez le catéchisme de Saint-Pilice. Catéchisme de Saint-Pilice, tout à fait au début, il y a un premier résumé de l'enseignement traditionnel de l'Église. Bon, il y a un passage où il parle justement des différents péchés, j'en ai déjà souvent parlé, et il y a un passage qui cite des péchés qui crient vengeance contre le ciel. L'un d'entre eux, c'est la sodomie, c'est-à-dire l'homosexualité. L'homosexualité pratiquée. Je ne parle pas de quelqu'un qui a des tentations et qui lutte contre ses tentations. Je parle de quelqu'un qui pratique son homosexualité. C'est un péché grave qui crie vengeance contre le ciel. Ça, c'est l'enseignement de Saint-Pilice, c'est l'enseignement de Pie IX, c'est l'enseignement de tous les papes pendant 2000 ans. Vous avez aujourd'hui sur Internet des prêtres modernes qui publiquement osent enseigner que l'homosexualité n'est pas un péché. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Ils vont reprendre le catéchisme ancien et vont enlever de ce catéchisme ancien toutes les choses qui ne leur plaisent pas. C'est exactement ce que fait Bergoglio à Rome. Quand Bergoglio fait exprès de nommer parmi les nouveaux cardinaux qu'il vient de nommer il y a quelques semaines, là, qu'il fait exprès de nommer parmi eux des gens qui sont, en utilisant un anglicisme épouvantable, gay-friendly, c'est-à-dire amis des homosexuels, eh bien, évidemment, il sait très bien ce qui va se passer. Et vous allez avoir de plus en plus de prêtres, d'évêques, qui vont dire que l'homosexualité n'est pas un péché. Si l'homosexualité n'est pas un péché, si un prêtre commence à raconter des choses pareilles, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce prêtre va perdre les âmes, parce que du coup, l'homosexualité va se répandre de plus en plus, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que ces prêtres qui se permettent de mépriser l'Église catholique, d'enseigner le contraire de ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Ils utilisent à fond Internet pour ça. J'ai encore reçu un papier ce matin, j'ai oublié le nom de ce prêtre. Un prêtre qui était sur tous les réseaux sociaux modernes, dans les réseaux sociaux modernes, en train de, soi-disant, expliquer le catéchisme, mais de façon moderne. Et c'est lui qui avait osé dire que l'homosexualité n'était pas un péché. Il avait dit ça sur Internet, ça avait été répercuté des milliers de fois. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui devait arriver est arrivé. Il vient d'annoncer qu'il quitte son sacerdoce. Vous voyez? Et c'est pareil pour avec tout ce que fait Bergoglio à Rome. Vous voyez? Donc, oui, encore une fois, il faut faire extrêmement attention à ça. Alors, on continue avec le texte de Saint-Pilice. Saint-Pilice va renforcer le coup. Vous allez voir ce que va dire Saint-Pilice. Donc, Saint-Pilice rappelle que le moderniste est quelqu'un qui amoindrit le magistère ecclésiastique, qui infime son autorité, qui attire le mépris et l'odieux sur l'épouse mystique du Christ et sur la Sainte Église, qui l'accuse d'être ami des ténèbres, fautrice d'ignorance, ennemi de la lumière, de la science et du progrès. On continue, c'est pas fini. Saint-Pilice continue. Texte Saint-Pilice, 1907, infaillible. Une sorte d'injure que les modernistes ne vomissent contre les catholiques. Celle d'ignorance et d'entêtement à la préférée. Donc les modernistes vont accuser les catholiques d'être des entêtés et des ignorants des progrès de la culture moderne. S'agit-il d'un adversaire que son érudition et sa vigueur d'esprit rendent redoutable? Ils chercheront à le réduire à l'impuissance en organisant autour de lui la conspiration du silence. C'est ce que les modernistes ont toujours fait. Dès qu'un prêtre un peu ferme qui commence à rappeler avec force la doctrine traditionnelle de l'Église, un grand théologien par exemple, tout de suite ils vont le ridiculiser d'une façon ou d'une autre. Par exemple, ils ont fait ça avec un très grand théologien qui était Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange, c'est un grand théologien des années 50, des années 60. D'accord ? Eh bien, il a été ridiculisé par les modernistes de son époque parce que justement, il était thomiste. Il suivait la théologie de saint Thomas d'Aquin. Lorsque Don de Montléon, un moine bénédictin des années, pareil, un peu avant, des années 50, a commencé à écrire ses livres sur l'interprétation de l'Ancien Testament d'après les pères de l'Église, surtout les chapitres, tous les passages sur les patriarches, sur Abraham, sur les grands patriarches de l'Ancien Testament, il a publié des livres magnifiques. Ben, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le monde moderniste, ils ont cherché à ridiculiser ces livres pour empêcher les gens de les lire. Ils disaient, ne lisez pas ces livres traditionnels, au contraire, venez chercher les livres nouveaux, les livres avec un esprit nouveau qui méprise la tradition ecclésiastique de l'enseignement des pères de l'Église sur le sujet et qui suit une autre exégèse, l'exégèse moderne. Et quand vous ouvrez saint Thomas d'Aquin, quand vous ouvrez Don de Montléon, qui explique les textes de l'Évangile, par exemple, qu'est-ce qu'ils citent ? Les pères de l'Église. Ils ne vont pas citer Bergoglio. Ils vont citer saint Augustin. Ils vont citer saint Cyril de Jérusalem, saint Cyril d'Alexandrie, saint Ambroise. Ils vont citer saint Jérôme. Ils vont citer saint Grégoire le Grand. Ils vont citer saint Athanase. Ils vont citer saint Jean Chrysostome. Tous les grands pères de l'Église. D'accord ? Bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les modernistes, ils expliquent satiristes, ils vont organiser autour des catholiques de tradition la conspiration du silence. Conspiration du silence. D'accord? Conduite d'autant plus blâmable que dans les mêmes temps, sans fin ni mesure, ces mêmes modernistes accablent d'éloges qui se mettent de leur bord. Un ouvrage pareil, respirant la nouveauté par tous ses pores, ils l'accueillent avec des applaudissements et des cris d'admiration. Plus un auteur aura apporté d'audace à battre en brèche l'Antiquité, à saper la tradition du magistère ecclésiastique, plus il sera savant. Enfin, et ceci est un sujet de véritable horreur pour les bons, s'il arrive que l'un d'entre eux soit frappé des condamnations de l'Église, les autres aussitôt de se presser autour de lui, de le combler d'éloges publics, de le vénérer presque comme un martyr de la vérité. Les jeunes étourdis et troublés de tout ce fracas de louanges et d'injures finissent par peur de qualificatif d'ignorant et par ambition du titre de savant, en même temps que sous l'aiguillon intérieur de la curiosité et de l'orgueil, par céder au courant, se jeter dans le modernisme. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les modernistes utilisent pour ça, pour pénétrer dans les familles, pour pénétrer dans les âmes, par l'intermédiaire des familles catholiques, ils vont utiliser surtout la presse. Aujourd'hui, ils vont utiliser encore plus Internet. C'est pour ça qu'Internet représente un certain danger. Sur Internet, il y a tout, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Donc, très attention à ça. Et on voit très bien comment les modernistes vont utiliser tous ces journaux qui sont rentrés dans les familles, surtout autour de, après le Concile. Le Concile Vatican II, c'est 62-65. C'est terminé en décembre 65. Bon. À ce moment-là, les journaux surtout édité par, soi-disant, la bonne presse, notamment le groupe Bayard, qui éditait toute une série de journaux qui pénétraient dans toutes les familles catholiques. À la fin des conciles de Vatican II, les curés qui sont revenus, qui avaient été déjà contaminés par les nouveautés de Vatican II, par les évêques, ont commencé à dire, les évêques ont poussé leurs curés, à pousser les familles à s'abonner à toutes ces revues. Témoignages chrétiens, La Vie catholique, Le Pèlerin, tous ces journaux-là. Et par ces journaux, ils ont fait pénétrer, par des beaux papiers glacés, des belles images, ils ont fait pénétrer tous les principes modernistes qui sont rentrés les uns après les autres dans l'Église. Bon. Et ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai lu, quelqu'un me l'a envoyé, je vous l'ai montré d'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé un article publié par Le Pèlerin sur l'homosexualité. Le Pèlerin prenait garde de ne pas dire « L'homosexualité n'est pas un péché, c'est quelque chose de magnifique. » Ils sont bien trop malins. Mais il y avait tout un article avec des belles photos de deux hommes homosexuels qui racontaient comment ils avaient découvert l'amour du Christ par leur homosexualité et que leur homosexualité leur permettrait de manifester l'amour du Christ de façon extraordinaire. Et tout l'article était là-dessus. Vous voyez, c'est des gens très bien. C'est les gens qui aiment beaucoup le bon Dieu, qui aiment bien la Sainte Vierge, qui ont même prié dans le chapelet, pas de problème. Dans le dernier pèlerin, vous venez de recevoir, ma chère maman, ça n'a pas raté. J'ai pas le temps de le lire, mais je vais le lire cet article. En page de garde, en page de couverture, il y a tout un article qui est annoncé sur les élections américaines qui arrivent le 5 novembre entre Kamala Harris et Trump. Les deux sont les bandits, pas se faire d'illusions. Cependant, Kamala Harris est 10 fois plus un bandit que Trump. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Bon. Ben, je suis sûr que tout l'article va être justement pour montrer que Kamala Harris est bien mieux que Trump. Que Kamala Harris est bien mieux que Trump. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris a publiquement dit qu'elle défendrait le droit à l'avortement, qu'elle se battrait pour... Actuellement, il y a 22 États, grâce à Trump, on peut dire tout ce qu'on veut sur Trump, mais grâce au changement qu'il a fait introduire dans les juges suprêmes qui tiennent la loi aux États-Unis, grâce aux juges traditionnels qu'il a fait rentrer, il y a 22 États aux États-Unis, il y a 50 États aux États-Unis, bon, 22, une cinquantaine d'États, 22 de ces États ont interdit l'avortement, ont restreint l'avortement pour protéger les enfants à naître, pour empêcher l'infanticide. Donc il y a 22 États qui ont empêché, qui bloquent l'avortement, ou complètement, ou en grande partie, pour essayer de protéger les bébés, les enfants. Bon. Kamala Harris a dit publiquement que si elle était élue, elle allait changer les lois pour empêcher les États de bloquer les avortements. Et donc de multiplier les infanticides. Ça, c'est comme ça. Pareil, elle se cache même plus qu'elle va favoriser les homosexuels, l'homosexualité, la culture woke et tous ces machins-là, ça va être un déferlement encore pire qu'actuellement aux États-Unis. Bon, Trump n'est pas un saint, pas du tout. Mais au moins, sur certaines choses, il a quand même compris qu'il fallait qu'il fasse un peu attention à ce qu'il dit. Bon, et en matière d'avortement, il a quand même été assez clairement contre l'avortement. Je dis bien relativement. D'accord ? Bon, alors, où est-ce qu'on est là ? On reprend un petit peu.
Arrête, j'ai les mangeants.
Je peux plus. Bah, il reste un quart d'heure, maman.
C'est trop long aujourd'hui.
Et oui, mais c'est une heure et demie tous les jours. Les gens qui attendent, ils attendent une heure et demie. Moi, je garde. Soyez patients, un quart d'heure. Petit quart d'heure. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais moi, je continue le cours jusqu'à ce que j'ai une heure et demie de cours. Parce que ça, je le fais systématiquement. D'accord ? Parce qu'il faut avancer, moi je ne peux pas continuer comme ça à expliquer Saint-Pédis pendant des années et des années, il faut que j'avance aussi dans le cours, d'accord ? Donc, qu'est-ce que font les modernistes ? Ils accablent d'éloges ceux qui se mettent de leur bord, et ils vont, dès que quelqu'un est condamné par l'église traditionnelle, un moderniste est condamné par l'église traditionnelle, ils vont le vénérer comme un martyr de la vérité. Bon. Et les jeunes qui ont peur d'être qualifiés d'ignorants, vont suivre l'aiguillon, dit Saint-Pédis, l'aiguillon intérieur de la curiosité et de l'orgueil pour céder au courant, se jeter dans le modernisme. Donc les jeunes qui n'ont pas de formation vont se jeter dans cet amour de la curiosité, amour des choses nouvelles, amour des nouveautés, amour, curiosité des déplorables, l'orgueil et l'ignorance. Comme ils n'ont pas de formation traditionnelle, vous demandez à un moderniste, prenez par exemple ces prêtres modernistes qui ont pignon sur rue maintenant, qui écrivent dans tous les modernismes modernes, soi-disant catholiques d'aujourd'hui, demandez-leur est-ce que vous avez lu les deux grands textes antimodernistes les plus importants des derniers siècles, à savoir le Syllabus de Contacura, 1864 de Pie IX, et Pachendi de Saint-Pédis. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais lu. Que ceux qui m'écoutent et qui peuvent vérifier auprès de des prêtres modernes autour d'eux, qui leur posent la question, est-ce que vous avez déjà lu, monsieur le prêtre qui a enseigné le modernisme le plus complet, est-ce que vous avez déjà lu les grandes condamnations de Saint-Pédis et de Pie IX contre le modernisme? Et je suis pratiquement certain qu'ils vont vous dire, ça ne nous intéresse pas parce que c'est beaucoup trop vieux. C'est 1864, 19e siècle, c'est 1907, c'est beaucoup trop vieux, on est en 2024, tout ça, ça ne nous intéresse pas, c'était avant Vatican II, Vatican II est venu et a changé tout ça, c'est fini, c'est terminé. Votre église d'avant Vatican II, votre église triomphaliste du Moyen-Âge, on n'en veut plus, c'est fini, c'est terminé, ça a été aboli par Vatican II. Votre église n'existe plus. Nous sommes une nouvelle église. C'est l'église synodale, c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant, l'église synodale, qui a enfin rendu à l'homme sa divinité, en quelque sorte. L'homme devient Dieu. Et puisque l'homme est devenu Dieu, il décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, tout enseignement de Saint-Pélice est systématiquement mis à la poubelle. Et je suis certain que ces gens-là, ces prêtres modernistes, n'ont jamais lu Saint-Pélice, n'ont jamais lu Pie IX, n'ont jamais lu le catéchisme du Concile de Trente. Ils n'ont même pas étudié. Quand j'étais jeune prêtre, c'était autour des années, j'étais ordonné en 79, il y avait encore des prêtres qui avaient été formés à l'ancienne. Des prêtres qui avaient été formés dans les séminaires traditionnels avant Vatican II. Il y en avait encore quelques-uns. Ces prêtres sont tous morts, à peu de choses près. D'accord ? Ils sont tous morts. Donc maintenant, les prêtres modernes, les prêtres qui se disent prêtres modernes, ont tous été formés avec l'esprit de Vatican II. Ils ne connaissent plus l'église traditionnelle. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et donc, ils n'ont plus de branches à laquelle se rattraper dans leur chute. Donc c'est la chute constante, parce qu'ils n'ont plus de branches à laquelle se rattraper. Vous voyez ? Et moi, je l'ai entendu plusieurs fois de la part de fidèles, de gens qui viennent me voir, qui viennent parfois de si loin, je ne sais pas pourquoi ils viennent ici. Bon, ils viennent ici parce qu'ils espèrent avoir la vérité traditionnelle de l'Église, c'est pour ça qu'ils viennent, je suppose. Donc, ils viennent me voir, et beaucoup viennent ils me disent la même chose, pratiquement tous. Ils disent, monsieur l'abbé, on a commencé à écouter vos cours, on est tombé à la renverse de toutes ces grandes vérités que vous expliquez, qui manifestement ne sont pas vos vérités personnelles, puisque vous suivez le texte du magistère de l'Église. Et on commence à comprendre ce qui se passe, on se pose une question élémentaire, comment se fait-il que tous les prêtres avant ne nous aient jamais expliqué toutes ces choses-là? Et je leur dis, mais allez demander. Allez voir vos prêtres modernes. Allez voir vos prêtres modernes qui vous ont roulé dans la farine depuis Vatican II, depuis 1962-1965, et demandez-leur pourquoi vous ne nous avez jamais expliqué les textes du syllabus, les grands textes de condamnation de Saint-Pélice, pourquoi vous n'avez jamais expliqué ça? Et je peux vous garantir, je peux vous donner la réponse, ils vont vous dire, mais mon pauvre ami, Vatican II a détruit tout ça, c'est fini. L'église de Saint-Pélice n'existe plus, l'église de Pie IX n'existe plus. L'église de tous les papes en 2000 ans n'existe plus. On peut aller plus loin que ça. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ n'existe plus. Maintenant, c'est un nouveau truc. Et c'est Vatican II. Maintenant, c'est l'église de Vatican II. Vous avez sans doute remarqué, beaucoup de gens l'ont remarqué comme moi, que Bergoglio, il y a un mot qu'il ne dit jamais. C'est le mot catholique. Jamais il parle de l'église catholique. Jamais il parle de l'église catholique. Il parle de l'église synodale, il parle de l'église des temps modernes, il parle de l'église des temps nouveaux, il parle de l'église de Vatican II, il ne parle jamais de l'église catholique. C'est un mot qu'il n'utilise jamais. On sent très bien qu'ils veulent absolument, non seulement ils veulent pousser Vatican II, mais ils veulent que les jeunes qui sont formés aujourd'hui dans les séminaires modernes n'aient plus aucun moyen de lire les anciens textes d'avant Vatican II. Et dès qu'il y a un évêque, comme par exemple Mgr Ray, l'évêque de Toulon, qui n'était pas traditionnaliste, mais qui était conservateur sur beaucoup de choses. Bon, Mgr Stickler, par exemple, aussi au Texas ou aux États-Unis, quelques évêques comme ça, qui étaient conservateurs, qui essayaient de freiner les quatre fers pour essayer de sauver un peu ce qu'ils pouvaient sauver. Ils avaient une certaine bonne volonté, il faut bien avouer ce qui est. Mais ils manquaient de fermeté dans leur foi, ça c'est sûr, et dans leur magistère. Mais ils avaient un certain désir de sauver ce qui pouvait être sauvé. Eh bien, on voit très bien que Bergoglio à Rome est en train d'empêcher l'évêque de Toulon avait encore un séminaire, Mgr Rey, qui est un séminaire un peu, non pas traditionnel, mais conservateur. Il y avait encore la soutane, il y avait encore la messe en latin, beaucoup disent encore la messe traditionnelle. C'est encore un peu traditionnel. Qu'est-ce qui se passe? Mgr Ray a été déplacé, a été enlevé de son autorité épiscopale sur le diocèse de Toulon. Toujours de la même façon, Bergoglio va mettre un coadjuteur qui va prendre la place petit à petit et interdire, dans la pratique, on laisse Mgr Ray comme chef du diocèse, mais il ne peut plus rien faire. Vous mettez dans une petite cagibi, là, puis vous attendez la mort, monsieur. Et pendant ce temps-là, on met un coadjuteur qui va commencer à mettre la révolution partout. Et qui est-ce qu'ils ont mis comme coadjuteur? À chaque fois, ils font le même truc. Ils mettent comme coadjuteur quelqu'un qui a fond derrière Bergoglio, qui est à fond pour le mariage des homosexuels, qui est à fond pour toutes ces choses-là, pour justement achever de détruire complètement la possibilité pour ces séminaristes qui ont encore un peu de foi conservatrice, je dirais pas traditionnelle, mais conservatrice, qui sont des conservateurs, pour les empêcher de revenir à la tradition de l'Église, qui n'est plus la possibilité de connaître le vrai. Vous voyez, donc c'est comme quelqu'un qui veut que les gens meurent, et donc pour mourir, on va d'abord leur enlever les médicaments qui peuvent les sauver. Ils ont une maladie grave. Donc il y a encore quelques-uns qui ont compris qu'il y avait une maladie grave et qu'il y avait des véritables médicaments qui peuvent bloquer cette maladie grave. Les modernistes, qu'est-ce qu'ils font? Les gens modernes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont arracher ces médicaments aux gens pour qu'ils puissent plus se soigner. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aussi s'arranger pour que ces médicaments ne soient même plus fabriqués, soient détruits à la racine, pour être sûr que plus personne n'ira chercher les médicaments d'avant. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. On le voit très bien. Résultat des courses, les gens perdent la foi de façon... De façon épouvantable. Et c'est ce que dit la conclusion de Saint-Pédis, de cette partie-là. Ces jeunes, sous l'aiguillon intérieur de la curiosité et de l'orgueil, vont céder au courant, se jeter dans le modernisme. D'accord ? Donc, l'orgueil, la curiosité, ou les nouveautés, c'est pareil, et l'ignorance amènent toujours au modernisme. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc vous voulez supprimer le modernisme, il faut absolument remonter aux causes et supprimer l'orgueil qui amène le modernisme, l'amour des nouveautés, la curiosité qui amène au modernisme et surtout l'ignorance qui amène au modernisme. Alors on continue encore un petit peu avec les textes de Saint-Pédis, là, on va avancer un peu plus vite. Et Saint-Pédis va continuer à expliquer comment il travaille. Il faut bien écouter ça. Et il disait ça en 1907. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Ceci appartient déjà aux artifices employés par les modernistes pour leurs produits. Que ne mettent-ils pas en œuvre pour se créer des nouveaux partisans? Ils s'emparent de chair dans les séminaires, dans les universités, et les transforment en chair de pestilence. Déguisés peut-être, ils sèment leur doctrine de la chair sacrée. Ils les professent ouvertement dans les congrès. Ils les font pénétrer et les mettent en vogue dans les institutions sociales. Sous leur propre nom, sous des pseudonymes, ils publient livres, journaux, revues. La même multipliera ses pseudonymes pour mieux tromper, par la multitude simulée des auteurs, le lecteur imprudent. En un mot, action, discours, écrit, il n'est rien qu'ils ne mettent en jeu, et véritablement, vous les diriez, saisi d'une sorte de frénésie. Le fruit de tout cela, notre cœur se serre, dit Saint-Pédis, à voir tant de jeunes gens, qui étaient l'espoir de l'Église, et à qui il promettait de si bons services, absolument dévoyés. Un autre spectacle encore nous attriste, c'est que tant d'autres catholiques, n'allant certes pas aussi loin, aient pris les derniers mois à l'habitude, comme s'ils eussent respiré un air contaminé, de penser, parler, écrire avec plus de liberté qu'il ne convient à des catholiques. De ceci, il en est même parmi les laïcs. Il en est même dans les rangs du clergé. Ils ne font pas défaut là où on devrait moins les attendre, dans les instituts religieux. S'ils traitent de questions bibliques, c'est d'après les principes modernistes. S'ils écrivent l'histoire, ils recherchent avec curiosité et publient au grand jour, sous couleur de dire toute la vérité, avec une sorte de plaisir mal dissimulé, tout ce qui leur paraît faire tache dans l'histoire de l'Église. Dominés par de certains a priori, ils détruisent autant qu'ils le peuvent les pieuses traditions populaires. Ils tournent en ridicule certaines reliques, fort vénérables par leur antiquité. Ils sont enfin possédés du vain désir de faire parler d'eux. Ce qui n'arriverait pas, ils le comprennent bien, s'ils disaient comme on a toujours dit jusqu'ici. Peut-être en sont-ils venus à se persuader qu'en cela ils servent Dieu et l'Église. En réalité, ils les offensent, moins peut-être par leurs œuvres mêmes que par l'esprit qui les anime, par le concours qu'ils prêtent aux audaces des modernistes. Vous voyez ? Saint-Pédis analyse bien les choses, et encore une fois, il parle en 1907, c'est exactement tout ce qui se passe actuellement. Vous lisez les journaux modernes, vous regardez ce qui est enseigné maintenant dans les conciles actuels, et c'est partout les mêmes choses qui sont enseignées absolument partout, d'accord. Continue encore dans Saint-Denis. donne des tas d'exemples pour être sûr qu'on comprenne. À tant de si graves erreurs, à leurs envahissements publics et occultes, notre prédécesseur Léon XIII, donc il reprend ce qu'ont dit les papes précédents, notre prédécesseur Léon XIII, c'est celui qui a précédé Saint Pie X, d'heureuse mémoire, chercha fortement à s'opposer, surtout en matière biblique, et par des paroles et par des actes. Mais ce ne sont pas armes, nous l'avons dit, dont les modernistes s'effraient facilement. Avec des airs affectés de soumission et de respect, les paroles, ils les plièrent à leurs sentiments. Les actes, ils les apportèrent à tout autre qu'à eux-mêmes. Et le mal est allé s'aggravant de jour en jour. C'est pourquoi, vénérable frère, nous sommes venus à détermination de prendre sans aucun retard des mesures plus efficaces. Vous voyez là, dans tous ces paragraphes que je viens d'expliquer aujourd'hui, Saint Pie X remonte aux causes. Il a expliqué ce qu'est le modernisme, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Il a expliqué comment l'intelligence était détruite et donc l'impossibilité pour ceux qui étaient affectés par le modernisme de revenir à la foi catholique traditionnelle. Bon, avec la destruction des premiers principes. Après, il a monté aux causes. Il en donne trois, je répète toujours les mêmes, l'orgueil, l'amour des nouveautés et la curiosité, et l'ignorance. Maintenant, il va commencer une autre partie, qui est la conclusion ultime de l'encyclique, que nous verrons, si Dieu veut, la prochaine fois. Il va attaquer une autre partie, les remèdes. C'est très joli de dire, d'expliquer ce que c'est que le modernisme. Un égout collecteur de toutes les hérésies. Très bien, on a compris ça. C'est très joli de donner les causes. Les causes, c'est l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Ça ne suffit pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour détruire les causes? Quels sont les remèdes à apporter pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver? Bon. Au temps de Saint Pie X espérait qu'avec ses condamnations, il allait pouvoir rattraper certaines choses. Saint Pie X ne se faisait pas trop d'illusions, il a vite compris que malheureusement, le ver était tellement dans le fruit que littéralement parlant, c'était irrattrapable, bien que l'Église soit divine. L'Église reste divine, attention. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, les forces de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il y aurait des milliards de catholiques sur la terre. Qu'il y aurait des milliards de catholiques sur la terre. En fait, il a dit le contraire. Il a parlé d'un petit troupeau. Ne craignez point, petit troupeau. Et il a parlé de la voie large qui mène à la perdition, que nombreux sont ceux qui la prennent. Et la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle, et que peu nombreux sont ceux qui la prennent. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donc prévenu qu'un petit nombre comprendrait ces choses-là. Ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Petit nombre relatif des élus.
Alors, c'est pas la peine de s'attiller.
Bah, au contraire.
Si on n'est pas dans les élus.
Mais non, ben c'est à nous de faire partir des élus, justement en luttant contre ces causes. Qu'est-ce qui perd les âmes? L'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Donc, deux solutions. Soit je me dis, c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. On continue de dégringoler et je dégringole avec tout le monde. Tout le troupeau se précipite dans le précipice, on va tous mourir, mais c'est pas grave parce qu'on est tous là-dedans. Donc je reste avec le troupeau. Deuxième possibilité, je m'arrête et on va essayer de remonter vers la source. Remonter vers la source, il faut maintenant remonter pour garder la foi. Donc lutter contre l'orgueil, lutter contre l'amour des nouveautés et lutter contre l'ignorance. L'ignorance. Oui, et c'est ça qu'il est absolument impératif de faire. Vous voyez, moi, c'est ce qui personnellement me frappe le plus, vous voyez, dans l'étude de ces textes, c'est à quel point Saint Pie X était un visionnaire. On a l'impression que Saint Pie X avait devant lui toutes les horreurs prononcées par Bergoglio à Rome, toutes les horreurs qui venaient de Vatican II, et que par avance, il essaie de protéger l'Église contre toutes ces horreurs. Malheureusement, il faut bien avouer ce qui est. Eh bien, les gens n'ont pas écouté Saint Pie X. Hein. Donc, il y a eu justement, c'est là où ces grands auteurs ont fait un travail énorme. C'est que pour servir de caisse de résonance, si vous voulez, au travail de Saint Pie X, il y a eu ces grands auteurs, maman vous les connaissez un peu parce que vous avez lu plusieurs livres d'eux, entre autres Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume Dans ce livre, par exemple, le traité du Saint-Esprit, Monseigneur de Ségur, Monseigneur de Lassus, surtout avec la conjuration antichrétienne, l'abbé Barbier, Louis Veuillot, tous ces grands auteurs catholiques du temps de Saint-Pédis, justement avant, à partir des années 1870, jusqu'à, on peut dire, jusqu'à, pratiquement jusqu'à Pédis, ont fait un travail extraordinaire pour soutenir Saint-Pédis. Et Saint-Pédis les a récompensés, justement pour les protéger, il les a récompensés par des dignités ecclésiastiques. C'est pour ça qu'on dit qu'on appelle, on dit pas les œuvres de l'abbé Gaume, on dit les œuvres de Monseigneur Gaume. C'est Monseigneur de Lassus, c'est Monseigneur de Ségur, c'est Monseigneur Join. C'était pas des évêques, c'était des simples prêtres, mais qui avaient été anoblis par les dignités ecclésiastiques de Saint-Pédis, qu'ils avaient anoblis pour leur donner plus d'autorité, pour pouvoir protéger justement les catholiques. Et ils ont fait des livres extraordinaires que j'ai lus. J'ai pas tout lu, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai lu une grande partie de ces livres. Pour ceux qui ont du temps, il faut étudier ces grands livres. J'ai un livre que je conseille aussi, qui est un énorme pavé. C'est le livre de l'abbé Barbier sur l'histoire du libéralisme depuis les débuts sous Léon XIII. Jusqu'à la fin de Saint-Pédis. Il y a des œuvres extraordinaires, entre autres, de l'abbé Barbier sur ce sujet-là, qui sont magnifiques. C'est des œuvres considérables. C'est des milliers de pages à lire et à étudier. Et ça prend énormément de temps. Bon, on va arrêter là. Je ne vais pas vous faire mourir d'ennui pendant les cours. Je m'excuse encore une fois auprès de ceux qui m'écoutent sur Internet, c'est un peu compliqué, on répète beaucoup les choses, mais il faut que ça rentre. On ne peut pas laisser ces grandes voix de la foi catholique crier dans le désert. Il faut les répercuter. Mon rôle de prêtre, c'est de répercuter ces avertissements de Saint-Pédis. Je me contente de répéter ce qu'ils ont dit. On finit par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint-Pédis, Saint-Joseph, Saint-Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.